Puisque la question de la censure et de l'autocensure est à la fois une question extrêmement sociale, mais extrêmement intime. On est tous le réac de l'autre, comme on est le beauf de l'autre. Donc voilà, peut-être vous allez trouver que je suis un horrible woke, ou à l'inverse, un homme réactionnaire, je ne sais pas, ce sera à vous d'en juger. Mais en tout cas, tout cela est extrêmement subjectif, même si je suis parti de témoignages d'enseignants, et on fait cette petite conférence avant les beaux gosses, parce qu'on s'est posé la question, montrer les beaux gosses aujourd'hui, l'essence, je les ai appelés comme ça, masturbation chaussette, est-ce que ça va passer partout dans toutes les salles du dispositif? Donc c'est quand même une question d'actualité. Et c'est une question qui s'inscrit dans un cycle qu'on a mené auprès des salles de cinéma. Et c'est des questions qu'on retrouve nous-mêmes dans notre travail de programmateur. On a fait par exemple une rétrospective sur Michel Simon. Et certaines salles m'ont dit « je ne passe pas la poison parce que c'est un féminicide ». Alors voilà, moi je vous lis des informations, après à vous d'en tirer les jugements que vous souhaitez. Mais en tout cas, voilà des réactions qu'on entend aujourd'hui, qu'on n'entendait pas forcément il y a 10 ans. Donc on s'est dit, il se passe quelque chose. Et depuis quelques années, on a beaucoup de retours des enseignants, de la hiérarchie, de l'éducation nationale, des parents, avec des frilosités, des angoisses, des peurs de montrer certains films. Et puis évidemment, ça pose aussi cette question de la censure et de l'autocensure, la question de la légitimité du cinéma au sein de l'établissement scolaire. Qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne montre pas? Évidemment, nous on parle beaucoup de cinéphilie, mais il y a une notion qui a été inventée presque en même temps que la cinéphilie, c'est la cinéphobie, c'est la peur du cinéma. Et ça, c'est aussi important de se le rappeler, cette cinéphobie. C'est par exemple la peur, il y a des lycéennes qui récemment, quand on a passé Alien, sont allées vomir dans les toilettes. Voilà, on pourrait dire que c'est une manifestation tout à fait physiologique de la cinéphobie. Mais il y avait quand même, il y a cette idée toujours un petit peu là quand même. Est-ce que finalement, c'est important de faire sauter un cours de maths et d'aller voir finalement un film de Jacques Demy? Et cette question-là, elle reste quand même dans les esprits. Alors, je vais essayer d'être assez concis, puisqu'en une demi-heure, c'est un petit peu compliqué. Alors, je suis parti de témoignages d'enseignants, d'enseignantes, de programmateurs, de programmatrices, et je me suis penché un peu sur la revue de presse, et la première chose qu'on constate, c'est que cette question de la censure, de l'autocensure, notamment dans l'éducation nationale, elle a été complètement emparée par la presse de droite. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis mis à lire des Valeurs Actuelles, Le Figaro, Le Point, L'Express. J'ai erré dans les rayons des médiathèques et tout de suite, on arrive à Coraline Forest, Onfray, etc. Donc c'est une question qui est éminemment politique. Et en tout cas, quand on fait une petite revue de presse, notamment sur la question de la laïcité, qui est une des grandes questions aujourd'hui sur l'autocensure, on tombe forcément sur cette vision-là. C'est pourquoi je pense, mais ce sera aussi un peu ma conclusion, c'est important que vous, les enseignants, les enseignantes, votre hiérarchie, mais nous aussi, les gens de la culture, on empoigne vraiment cette question de la censure et de l'autocensure et qu'on la porte en questionnement, en débat, en public, avec les élèves, avec les spectateurs, les spectatrices, avec tout le monde. Parce que je pense que c'est une vraie question, et en plus c'est une vraie question de cinéma. Parce que la censure, finalement, ça reprend cette question ancestrale, c'est qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je cache? Et quelqu'un qui a excellé dans montrer et cacher, c'est Lubitsch. Et on pourrait presque dire que grâce à la censure, Lubitsch a créé un cinéma d'exception, avec finalement, c'est plus subjectif d'imaginer ce qui se passe derrière la porte que d'être dans la chambre à coucher. Hein, vous savez, c'est à cause du code Hays, où notamment un homme et une femme dans une chambre, si jamais ils devaient être sur un lit, il fallait toujours qu'il y ait un pied qui reste au sol. C'est quand même assez aberrant, mais en tout cas, voilà, ça a permis de développer à Lubitsch des trésors d'imagination. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. Voilà, sachant que je marche un peu sur une ligne de crête, certains voilà, vont trouver que ce que je dis est d'un côté et de l'autre. On est un peu, il y a eu un article récemment dans Le Monde de Michel Guérin entre un puritanisme de droite et un puritanisme de gauche. Il faut faire attention aussi aux mots qu'on emploie. Le mot woke est très connoté, par exemple. C'est un mot qui devient complètement employé par l'extrême droite. Voilà. Aux États-Unis, et c'est en train d'arriver en France, il y a une commission au sein du Rassemblement national qui travaille cette question du wokisme. Donc attention aussi au vocabulaire et attention voilà, aux mots qu'on prononce sur cette question-là qui est encore une fois très très sensible. Alors très rapidement, je vous propose trois petits paragraphes, parce que c'est vraiment une synthèse en une demi-heure pour un sujet. En fait, c'est assez étonnant, quand on tire le fil de cette question de la censure ou de la censure, on déroule une sorte de pelote et on arrive sur des multitudes de sujets, de société, de spectacle, de culture et d'éducation forcément. Donc, trois axes, après cette introduction un petit peu longue. Quels sont les différents ressorts de l'autocensure? Quelles sont les instances qui nous en préservent? Parce que quand même, pour qu'un film arrive jusque devant vos élèves, il y a quand même tout un nombre de filtres qu'il faut rappeler. Et puis, quels discours éventuellement on peut tenir ensemble et quels outils on a à notre disposition pour évoquer ça? Parce que j'ai un petit peu l'impression qu'on a tendance à la glisser un peu sous le tapis. cette question-là, et de l'éluder. C'est-à-dire, bon, on ne le prend pas, mais on ne va pas dire qu'on ne le prend pas, ce film-là, on ne va pas parler de ce livre, on ne va pas dire qu'on ne le prend pas. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut en faire un vrai sujet et le mettre vraiment sur la table, sur la scène, sur l'écran, peu importe, en tout cas, face à des oreilles et des yeux pour en parler. Donc, sur les différents ressorts de l'autocensure, ils sont très nombreux. J'ai réduit le nombre des extraits, et le premier extrait que je passe d'habitude, parce que je l'ai fait cette conférence plusieurs reprises, c'est « Charlot fait une cure ». Ça avait été montré dans une formation école et cinéma, et une institutrice avait dit, mais moi je ne montrerai jamais ce film à mes élèves, donc égal autocensure, parce qu'un des enfants qui suit mes cours, le papa est alcoolique, donc je ne montrerai pas ce film-là. Donc vous voyez, la question d'autocensure, elle peut être sur quelque chose d'absolument anecdotique. Je vais envoyer un premier extrait d'un film que je n'attendais pas forcément des réactions épidermiques, et pourtant il y en a eu beaucoup. C'est Podane de Jacques Demy, donc si tu veux bien lancer Sébastien, c'est moi qui le lance, pardon, j'ai oublié la consigne. Voilà, écoutez bien évidemment les paroles. À École et Cinéma, et depuis quelques années, de nombreux enseignants ne se sentent pas de montrer un film qui parle d'une question, un des tabous absolus quand même aujourd'hui dans notre société, c'est la question de l'inceste. Donc voilà une forme d'autocensure sur un sujet. Alors évidemment, on en parle en chantant une certaine légèreté. Après, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qui est quand même dit dans la chanson. Mais sachez que voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on n'attendait pas forcément de l'action d'autocensure. Voilà, c'est un film que beaucoup d'instituteurs, institutrices ne programment plus parce que ça parle de l'inceste et qu'ils ne se sentent pas équipés, ils ne se sentent pas prêts de parler de cette question-là. Ça, c'est le premier extrait que je vais vous passer. Et puis le deuxième extrait, évidemment, est très attendu dans ce genre de conférence, forcément. C'est un extrait de Tomboy, et c'est vraiment de là, j'ai envie de dire, que ça s'est un petit peu, les choses se sont un petit peu envenimées. Et on va voir le petit extrait. L'autocensure, c'est que c'est d'une actualité permanente, puisque le film vient d'être encore déprogrammé en Alsace. Bon, après, je cherche. C'est dans un collège catholique. Bon, voilà. Donc, je cherche un peu la petite bête. Et donc, ils l'ont déprogrammé parce que des parents d'élèves avaient été alertés par le site Riposte catholique qui accusait le collège de mettre gravement en danger le développement psychologique des élèves en proposant ce film. Et donc, la direction diocésaine de l'établissement, bon, je dis, je cherche un peu la petite bête, mais quand même, a dit que la thématique était trop compliquée. Donc, le directeur ne l'a pas programmé. Il a dit évidemment que ça n'avait rien à voir avec la censure, mais qu'il voulait simplement éviter des réactions trop passionnées. Voilà, et ça date du mois de mai. Donc, c'est quand même d'une actualité assez importante. Je voulais rappeler quand même un petit peu ce qui s'est passé pour Tomboy, parce que je trouve que c'est une histoire assez intéressante. Donc, c'est un film qui est dans École et Collège au cinéma. Donc, c'est un film qui date de 2011, qui est rentré très vite dans le dispositif. Ça a commencé par le courrier du maire de famille, qui a écrit l'institutrice de son enfant scolarisé dans l'école de Niort, et qui a écrit ceci. « Il est tout à fait dangereux de laisser penser à des enfants de 9 ans que l'on peut changer de sexe, qui plus est sans dommage. » Ça a tout de suite trouvé un terreau favorable des rassemblements contre le mariage pour tous, qui désapprouvait évidemment la sélection. Et ensuite, une pétition a été lancée par un site, une fondation espagnole catholique, décidément, qui prend position sur différentes sociétés, je vous le donne en 1000, l'avortement, le mariage homosexuel, l'enseignement des théories du genre, etc., qui a lancé une pétition qui a été signée quand même par plus de 18 000 personnes. Donc ça a pris comme un aspect tout à fait massif. La pétition était adressée au ministère de l'Éducation nationale avec comme argumentaire, attention, non seulement le film nous montre une fille empêtrée dans le mensonge, mais encore il nous plonge dans le monde de l'homosexualité, premier baiser entre Laure et sa copine Lisa. L'objectif affiché dans le cahier des charges du dispositif École et Cinéma de favoriser la formation du jugement, du goût et de la sensibilité ressemble plutôt dans les faits à du prosélytisme en faveur de l'idéologie de genre. Voilà. À partir de ces arguments-là, ça fait peur un petit peu à tout le monde. Et quand je regarde, j'ai demandé aux coordinations nationales si le film était encore choisi. Eh bien, en fait, il n'est pratiquement plus du tout choisi, puisqu'à partir du moment où il y a une censure ou une demande de censure, il y a une sorte d'effroi qui saisit le corps enseignant dans toute sa verticalité, et plus personne n'ose le montrer. Et ce qui était aussi un petit peu le cas de Podane. Après, il y a aussi des contre-exemples. Nous, on avait un peu peur de montrer Scheherazade, en disant il y a quand même des scènes très violentes. Alors, nous, dans l'académie, on n'a eu qu'une réponse en disant si vous montrez des films sur la sur la prostitution enfantine, merci, bravo, quoi. Voilà. Mais sinon, globalement, les élèves ont été beaucoup moins pudiques et pudibonds ou angoissés que nous par toutes les scènes un petit peu violentes et de sexualité explicite du film. Pour dire que voilà, cette question de l'autocensure, elle est intéressante parce qu'encore une fois, elle est subjective. D'un enseignant à un élève, c'est pas du tout la même réception. Donc parfois, voilà, nous, on serait prêts à s'autocensurer, même dans la sélection, comme on aurait pu le faire pour les beaux gosses. Pour plein de raisons, peut-être que Adrien vous en reparlera un petit peu après, mais en tout cas, voilà, cette question de la réception, elle est importante. Donc, très, très simplement, jusqu'à présent, j'ai évoqué évidemment la question pourquoi ne pas passer un film. Il y a la question des tabous, donc on a parlé de l'inceste, il y a la question du genre, évidemment de la sexualité, évidemment, il y a la question du nu. Assister à des scènes avec des personnages nus en présence d'adultes juste à côté, on peut entendre aussi que ça peut être un petit peu gênant pour des jeunes quand même, mais un professeur me racontait qu'il ne pouvait plus montrer les liaisons dangereuses à des lycéens de Stephen Frears parce qu'il était impensable de voir un homme écrire quelque chose sur les fesses de sa maîtresse, hein, puisque c'est une des scènes de, voilà, il dit que c'est, aujourd'hui c'est devenu complètement immontrable, sachant qu'on est quand même d'une sorte de tartufferie, puisque à 12 ans près d'un enfant sur 3 a déjà été exposé à la pornographie. Voilà, donc bon, voilà, je tenais quand même à le dire. Donc des sujets tabous, évidemment la mort, l'inceste, la maladie, le suicide, le genre. Exemple, Ponette de Jacques Doyon, une petite fille qui perd sa maman, zéro programmation cette année. La vie est immense, pleine de dangers, un enfant malade du cancer, zéro programmation. Et puis les dernières petites polémiques, c'est Jeune Juliette, parce qu'à un moment donné, il y a deux jeunes filles qui se font un petit bisou sur la bouche. Voilà, et là, ça a suscité une polémique assez importante. Ne pas oublier aussi la question de l'autocensure d'ordre culturel. On aurait tendance parfois, nous-mêmes, à s'interdire à passer des films en disant « Non, pas pour les élèves, c'est trop élevé, c'est trop intello, c'est trop différent d'eux. » Et je me souviens, alors ça date un petit peu, j'en suis désolé, mais de l'horreur de Murnau, qui dans certaines salles de cinéma, pour certains lycées, avait été applaudi par des élèves. Donc voilà, vous voyez, toute la ligne de l'autocensure, elle n'est pas simplement sur des questions évidentes, mais elle peut être sur des questions d'ordre culturel. Évidemment, depuis cet invité, la question des relations hommes-femmes. Le dernier bug que je peux vous signaler, c'est la leçon de piano. Pour certaines lycéennes et lycéens, c'est absolument insupportable de voir une femme s'amouracher d'un homme qui passe pour être son bourreau. Donc refus de voir le film ou de le voir. Et puis exemple chez les étudiants, le mépris. Il y a eu un article dans Le Monde où une étudiante a débranché l'appareil de projection avec la scène « Aimez Saint, tu aimes Saint », etc. qui est pourtant déjà une scène au second degré. Mais visiblement, là, le second degré n'a pas fonctionné. Dans la liste des faits aussi, des interdits, des choses qu'on s'interdit et les faits historiques, on a quand même des retours d'enseignants qui disent que dans certains endroits, la Shoah est quand même difficile à enseigner. Et un seul exemple, Les Héritiers, qui est l'histoire d'une professeure qui invite sa classe à travailler la question de la Shoah pour un concours. Il n'a été programmé qu'une fois en 2022-2023. Alors, je ne parle pas des qualités artistiques du film, hein, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on sait que c'est compliqué. Et puis, évidemment, il y a la question religieuse. Ce serait complètement une erreur de ma part de ne pas en parler. Notre première alerte, nous, elle est très ancienne, elle date du début des années 2000. C'était Sleepy Hollow, parce que quelqu'un nous avait dit « on ne tranche pas la tête d'un protestant ». Voilà. C'était une petite lettre comme ça qui nous avait beaucoup amusés. Aujourd'hui, on ne peut pas quand même oublier qu'il y a eu l'affaire Samuel Paty, que quelqu'un qui a montré des caricatures en est mort. Donc cette question de la religion à l'école est quand même compliquée. Si je la ramène à la question du cinéma, les retours que j'ai eus, c'est sur Persepolis de Marjane Satrapi, en disant que ce n'était pas une bonne vision de l'islam, en tout cas que c'était une vision dévoyée du rapport homme-femme. Cette même remarque a été faite à propos de... Alors, à propos de Charulata de Satyajit Ray, puisque donc c'est un grand classique du cinéma indien, avec des remarques disant que la femme doit se soumettre à l'autorité de son mari et que ce n'est pas une bonne représentation du couple. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est quand même assez important, il y a une enquête qui a été faite par la Fondation Jean Jaurès et Charlie Hebdo, forcément, qui a été publiée en 2020 et qui dit que 49% des enseignants disent que c'est déjà auto-censuré dans leur enseignement. Autour des questions religieuses pour éviter de possibles incidents de classe, soit une hausse de 13 points entre 2018 et 2020. Voilà. Voilà, je tenais quand même à. Voilà. Donc la question de la laïcité fait évidemment partie des tabous et des questions. Et alors, depuis que je fais des conférences, on m'a parlé aussi, évidemment, il y a la question de la violence, de la résistance au niveau de violence. Le labyrinthe de Pan, par exemple, suscite beaucoup d'émoi. Et puis, il y a aussi des films qui sont refusés au niveau de. Alors, ça fait très inventaire à la Prévert, j'en suis désolé, mais c'est un petit peu des retours d'expérience, d'où le désordre. Les violences faites sur les animaux, ou supposées faites sur les animaux. Ça, c'est quelque chose qu'il y a 10 ans, qui serait passé comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, ça bug énormément. Donc, vous voyez, ces raisons de censure, autocensure, elles sont multiples et on pourrait les déployer à l'envi. Vous voyez, j'ai encore un exemple, même s'il est alsacien, qui date du mois de mai. Pour dire, c'est sans fin. Et presque chaque mois, on voit, nous, dans l'équipe, arriver des interdits, des auto-interdictions, des réticences, des angoisses, des inquiétudes, et qui nous gagnent, nous aussi. Alors peut-être pour se rassurer aussi quand même, rappeler, parce que je pense que c'est important de le remettre dans le débat, c'est que le cinéma est le seul de tous les arts à passer par une commission de classification des œuvres. Ce qui n'est pas le cas pour l'art plastique, pour la peinture, pour le dessin, pour la lecture. Donc déjà, si un film arrive dans une salle de cinéma, c'est qu'il est autorisé pour un public, pour tous les publics. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction d'âge. Donc forcément, dans tous les films, de tous les dispositifs, ce sont tous des films qui sont passés par ce qu'on appelle encore un visa de censure ou de classification. Donc voilà, il y a quand même des gens, des professionnels qui voient les films dans leur intégralité, qui se rendent régulièrement au CNC, des psychologues, des gens de l'éducation, des gens de l'administration, de l'éducation nationale, qui valident ces films-là. Donc déjà, pour nous, on peut dire on est dans la légalité. C'est important parce que c'est parfois quelque chose qu'on peut oublier. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Après, il y a des comités de sélection nationaux. Alors, j'ai fait valoir au CNC qu'on ne sait pas qui sont dans ces comités. Si on cherche au sud des CNC, on ne sait pas qui les valide. Et ce serait important de savoir qui est là. Alors, globalement, on sait à peu près. C'est à peu près un peu comme pour le visa de censure ou de classification. Ce sont des professionnels de l'éducation, des psychologues, des enseignants, des gens du terrain, des gens de la culture. Voilà, mais pour dire qu'il y a vraiment une réflexion. Et après, il y a encore un dernier filtre, c'est au niveau régional. Il y a un comité de pilotage qui réunit des enseignants, les collectivités, l'État, la DRAC, l'éducation nationale, qui va réfléchir à la cohérence de la liste. Et si un film pose question, bon, on va s'interroger. Par exemple, Les Beaux Gosses, on s'est interrogé, très légitimement ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on s'est interrogé. Et on s'est dit qu'en le mettant en face de Breakfast Club, ça pouvait donner lieu à des discussions. Donc pour vous dire que voilà, quand les films arrivent, il ne faut pas oublier de dire à votre hiérarchie, aux parents d'élèves, il y a tous ces filtres-là qui sont mis en place avant d'arriver devant les élèves. Après, moi je trouve que c'est un vrai sujet de cinéma, comme je vous l'ai dit, cette question de montrer caché. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a des films qui ont été interdits, par exemple Zéro de conduite, qui avait été interdit en 1933 pour dénigrement de l'instruction publique, et qu'aujourd'hui n'est parfois pas programmé parce qu'à un moment donné il y a une scène de bataille de Polochon et vous savez ils sont une espèce de pyjama robe de chambre et à un moment donné ça se soulève et on voit un zizi, voilà. Et il y a des enseignants qui disent je ne montre pas ça parce qu'on voit un corps nu d'enfant ou presque. Donc vous voyez c'est intéressant quand même de remettre ça dans une perspective historique. C'était interdit pour dénigrement et aujourd'hui c'est pas interdit mais c'est rejeté pour quelque chose de complètement différent. Donc je trouve ça assez intéressant de redonner peut-être une perspective pour peut-être montrer un extrait, dire à un élève, tu vois ça, dans les années 40, 30, c'était interdit, aujourd'hui c'est autorisé, mais voilà, pour donner le côté relatif de la censure, ce qui était interdit il y a 30 ans n'est plus aujourd'hui, ce qui est interdit là-bas et n'est peut-être pas ici, enfin voilà, il y a quand même une relativité à faire valoir de la censure. Donc je pense que ce côté relatif, il est quand même assez important à aborder avec les élèves, et aborder le cinéma par l'histoire de la censure serait à mon avis une bonne approche. Un des dictionnaires les plus passionnants de cinéma, c'est le dictionnaire de la censure de Jean-Luc Douin, avec différentes entrées par film, par pays, et c'est juste passionnant, c'est souvent hilarant, c'est parfois désolant, mais je trouve que c'est une belle entrée. Alors je ne vous dis pas de faire un historique de la censure avec vos élèves, mais en tout cas de recontextualiser pourquoi ce film-là, il gêne aujourd'hui, pourquoi il a gêné il y a 20 ans. Voilà. Donc, c'est ça ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est d'en faire un vrai sujet, et ne pas laisser ce sujet-là à une radicalité qui n'est pas forcément la nôtre ou la vôtre. Après, l'idée, ce n'est pas de se situer politiquement, mais c'est de dire que nous, voilà, une sorte de corps commun, éducation nationale, culture, on a à se saisir de ce sujet-là, et à de produire du discours, et de relativiser, et de le replacer dans une perspective historique. Et ça, je crois que c'est assez important. Évidemment, on peut aussi mettre en place ce qu'on appelle les trigger warnings, hein, c'est-à-dire des avertissements. Alors, récemment, j'avais une pièce en Royaume-Uni, où c'était une pièce amateur, et il y avait un petit mot, attention, cette scène, dans cette pièce, il va être question de troubles familiaux, de maladies, et à la fin, death, de mort. Je me suis dit, waouh, la grosse angoisse, je veux dire, tout Shakespeare, trigger warnings. Hein. En même temps, avertir, pourquoi pas. Alors, ayez des discussions avec des gens qui ont 20-30 ans, ils trouvent ça absolument normal, enfin beaucoup. Moi, je trouve ça très bizarre, mais encore une fois, le point de vue que je vous donne sur ce sujet-là, c'est pour ça que je vous dis que j'ai sur une ligne de crête, c'est le point de vue de quelqu'un qui a plus de 50 ans. Donc forcément, si quelqu'un avait 20 ans ou 30 ans, il ne ferait pas du tout la même conférence que moi. Donc c'est ce côté générationnel aussi qui est très relatif. Mais c'est très intéressant, cette question de mettre des warnings, de dire attention. Et en même temps, est-ce que l'art n'est pas là aussi pour déranger, pas forcément choquer, mais travailler sur la question de la surprise. Et à force de vouloir surprotéger et dire attention, dans ce film-là, il y aura ça, 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 toute une liste de problèmes qui, en plus, sont peut-être ceux de la personne qui a rédigé l'avertissement, mais peut-être que moi, je fais une aversion pour les carottes râpées, que ça me rend complètement dingue et que c'est pas mis dans la liste. Je vais passer à côté. Enfin, vous voyez, si on commence, enfin, pour moi, c'est un peu sans fin. Donc, vous voyez, je vous donne comme mon avis. Alors, je vous ai dit que je ne donnerai pas mon avis. Après, il faut quand même savoir qu'on est dans un contexte. Cette question qui touche l'école et l'autocensure, elle touche aussi, comment dire, l'ensemble de la filière culturelle et cinématographique, notamment aux États-Unis. Dans le film Buzz l'éclair, le film, hein, pas le film d'animation, qui est adapté de la saga de Toy Story, il y a le personnage principal qui est marié. Deux femmes sont mariées ensemble et on les voit s'embrasser. Et Pixar a voulu couper, mais des salariés sont intervenus pour pouvoir remettre la scène, parce qu'ils se sont dit on va pouvoir exporter le film dans certains pays. Peter Pan, Les Aristochats, Dumbo sur Disney+, aux États-Unis n'est plus dans le catalogue pour enfants. Why? Eh bien, en fait, Dumbo est incriminé pour ses corbeaux caricaturant des Afro-Américains chantant le blues, Peter Pan pour sa représentation des peaux rouges, et Les Aristochats pour son siamois aux yeux bridés. Donc, racisme, voilà. Vous riez, mais c'est just facts. Hein. Voilà. Il y a eu aussi, on en avait beaucoup parlé à une époque, la disparition d'Autant d'emporte le vent du catalogue HBO. Et il est revenu dans le catalogue, mais il s'accompagne de vidéos de contextualisation, qui peut être une forme de réponse. Hein, voilà. En conclusion, si on peut conclure, on voit que le phénomène prend beaucoup d'ampleur. On est coincé, comme je l'ai dit un peu en introduction, entre deux puritanismes, hein, de droite et de gauche. Ça, c'est une première chose. Redire aussi qu'on est sur une tartufferie totale, voir l'exposition des jeunes aux images sur Internet. Un tiers des enfants de 6 à 10 ans utilisent Internet seul ou sans autorisation. Vous, dans le cadre des dispositifs, vous êtes avec vos élèves, vous pouvez en parler avant et après. Et je pense qu'il y a un vrai truc de différence, comme c'est la parole. J'insiste vraiment sur la question des échanges. Redire que la censure fait partie de l'histoire suite du cinéma, que c'est une belle porte d'entrée pour en parler, et qu'on doit assumer, nous, si on montre des films ou si on ne les montre pas. Après tout, on peut aussi parler des films qu'on ne va pas montrer, pourquoi on ne veut pas les montrer, en parler peut-être pas forcément aux élèves, mais voilà, à votre proviseur, à votre principal. Après, cette question aussi, elle est tout à fait aléatoire, elle est tout à fait intime. Et c'est Tarantino qui posait la question. Finalement, est-ce que le film le plus traumatisant, ce serait pas Bambi, hein? Et que plutôt que de s'énerver sur les films sur lesquels on s'énerve aujourd'hui, il faudrait pas dire à un enfant de 5 ans, attention Bambi, tu vas être traumatisé pour la vie. Alors j'avais noté l'extrait, mais on n'a pas trop le temps de le lire, parce qu'il est assez rigolo. Si vous avez le temps de lire le livre de Tarantino, Cinema Speculation, il parle de ce choc de Bambi, et en fait, ça lui fait plus peur que le premier film de Wes Craven qu'il a vu à 14 ans. Donc vous voyez ce côté extrêmement relatif de l'autocensure. Après, il faut entendre que les catalogues sont vivants et que le public change, et que c'est normal quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, c'est pas comme quelqu'un qui avait 20 ans il y a 30-40 ans. Et que alors je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, les catalogues vivent, ils changent, et il y a des films qui, entre guillemets, vieillissent dans les représentations. Et il faut quand même en tenir compte, et je pense qu'il faut qu'il y ait une discussion intergénérationnelle. Et je pense que quand on choisit des films, peut-être sans faire de la démagogie, mais peut-être qu'il y a peut-être plus des trentenaires qui choisissent, pas forcément que des quinquas ou des sexas, enfin j'en sais rien. En tout cas, il y a une évolution des catalogues et c'est important. Ce qui fait plaisir, c'est que ça veut dire que le cinéma n'est pas mort, il fait toujours réagir, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, quand même, on pourrait faire plusieurs citations, mais j'aime bien celle de Philippe Solers, qui dit ceci, « L'art a toujours été hors la loi ». Donc il y a quand même ce côté un peu, voilà, on est là pour sortir du cadre, comme les personnages de ce matin essayaient de sortir du cadre. Voilà, l'idée, c'est quand même du décadrage, et pourtant on est dans un cadre, celui de l'écran, et c'est vrai que ça repose aussi la question de la place du cinéma dans l'école, ce moment de décadrage, peut-être de lâcher prise, de laisser l'enfant seul face à des émotions, mais encore une fois avec cette grande force que vous avez de pouvoir interagir, réagir avec les jeunes. Voilà. En plus, moi je pense qu'un cinéma sans aspérité, sans débat, franchement ça serait mortel. Si on fait des listes complètement, on va faire le catalogue Disney Channel, hein, ça n'aura pas grand intérêt. Et je pense qu'il faut voilà, résister et tenir à cette rugosité du cinéma qui fait que c'est un cinéma, que l'art est toujours vivant. Voilà, je crois que j'ai presque tenu les délais. Je suis désolé, je suis allé très très vite. Mais voilà. Merci à vous.